présente Crash ton Covid.
Odette Tremblay.
Covid, Covid. Nous sommes dans ce mouvement depuis trop longtemps. Unissons-nous, main dans la main, envoie. Qu'est-ce qu'on attend? La soumission a assez duré. C'est à en parler, c'est pas gênant. Être isolé, oublié, c'est pas se faire respecter. L'humiliation a assez duré. Ouvrons nos cœurs pour en parler. À l'horizon, il y a une solution.
Crash ton COVID.
Bonjour, ici Aude Malaret. Québec ne va pas assez loin dans la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse, déplore l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS. Selon le syndicat, des modifications proposées par le gouvernement Legault sont encore trop frileuses et n'apportent pas de véritables changements. Les parlementaires commençaient hier les consultations sur le texte législatif déposé en décembre par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carman. Québec veut placer l'intérêt de l'enfant au cœur de sa réforme attendue de la loi sur la protection de la jeunesse. La plus grande réticence qu'éprouve la PTS concerne la concentration des pouvoirs entre les mains de la DNPJ, qui n'est pas indépendante par rapport aux décisions politiques. La PTS déplore également l'absence de toute reconnaissance de l'expertise du personnel professionnel et technique qui œuvre auprès des jeunes et de leurs familles. Les réseaux de transport en commun des grandes villes canadiennes auraient avantage à mieux répondre aux habitudes de déplacement des femmes, selon une étude dirigée par l'Université de l'Alberta. Parmi les villes étudiées, on compte Montréal, Québec, Longueuil, Laval et Ottawa-Gatineau. L'étude révèle que les femmes constituent le plus grand groupe d'usagers des transports en commun au pays, mais que l'offre de services actuelle n'est pas toujours adaptée à leurs besoins. Les Canadiennes ont notamment tendance à se déplacer en dehors des heures de pointe, à réaliser plusieurs arrêts au cours d'un même périple et à parcourir de courtes distances, souvent au service d'autrui. Or, ces habitudes de déplacement sont généralement moins bien desservies par l'offre de transport public des grandes villes canadiennes. En améliorant nos connaissances sur la façon dont les femmes se déplacent dans nos villes, les agences de transport en commun seront mieux outillées pour prendre des décisions stratégiques éclairées et répartir les services de la meilleure façon possible, remarque la professeure Geneviève Boisjoli. À long terme, tout le monde profitera d'un réseau qui répond aux besoins de sa clientèle. Dignité Noire, l'émission qui porte sur les communautés noires d'ici et d'ailleurs, revient de manière hebdomadaire à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Lundi 7 février, Mbaye Hadji Mbayriwaye s'est entendue avec Ndeye Marifol, porte-parole du mois de l'histoire des Noirs à Québec, et Aïché Koné, coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. L'émission est disponible en balado sur ckayafm.org. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon.
Tous. embaumeur, mais je hais du trombone. Et les jours où personne ne daignait trépasser, seul entre ses cercueils et son vieux gramophone, il prenait des chorus avec Tom et Dorsey. Y a pas de saut métier, comme le dit le proverbe. Et s'il faut que la mort soit votre gagne-pain, tout plutôt que l'armée, vive les pompes funèbres. C'est moins dur que docteur et plus sûr qu'assassin. Donc il était croque-mort et battait la mesure, tout en déboutonnant trois ou quatre bémols. Sa fiancée cachée, son unique aventure, c'était son instrument parfumé de formol. Pour le reste, il était toujours de circonstance. Chagrin pour escroquer les veuves tout en pleurs. Discret pour encaisser l'échec d'assurance. Artiste pour monter, elle est caddie la grande fleur.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant thank you very much, monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais
que dès la nuit venue, j'espère, elles sont dansées sur le réseau. Ce matin, on va voir Michel, est-ce que Michel est là, par exemple, pour voir si ça fonctionne ou pas, ou si je parle complètement dans le vide. Pour une nouvelle. On va donc présumer que, puisque on a joué la musique, que je suis connecté, parce qu'on a des gros problèmes techniques, et c'est pas à moi d'expliquer les causes et solutions, ou les raisons d'être des problèmes techniques, je ne m'y connais pas. Du tout. Présentement, je ne vois pas de façon que vous pouvez poser vos questions. Pas ce matin. Voilà. Moi, je vois Michel est présent. Puis, Michel, est-ce qu'on est en contact avec tout le monde? Non, pas de voix encore. En tout cas, théoriquement, il est là. Fait que je peux prendre une de mes questions que j'ai mis de côté. On va voir si Michel peut nous joindre et lire d'autres questions bientôt. Voilà. Ici, une question de Steve, que je ne suis pas courriel. Quand vous dites de mettre les plantes dans un sac de plastique transparent, est-ce qu'il faut ouvrir le sac de temps en temps? Est-ce qu'il reste des champignons sur la plante? Non. Ben, il pourrait avoir des restes de champignons éventuellement, si c'était super humide, mais vraiment... Le terreau était imbibé d'eau. Ça pourrait arriver. Mais si le terreau est c'est normal, non, il n'y a pas de problème de champignons. Il n'y a pas besoin d'ouvrir non plus. C'est une, je comprends que ça paraît bizarre aux êtres humains, parce que nous, on ne s'y vivra pas très longtemps dans un sac de plastique ou dans n'importe quel contenant fermé. Mais les plantes, ce n'est pas la même chose. Les plantes commencent, je rappelle, de l'école secondaire, produisent de l'oxygène la nuit et produisent le dioxyde de carbone le jour. Dans ce contraire, ils utilisent le dioxyde le jour et produisent de l'oxygène, et le soir, c'est le contraire. Donc, il y a les deux. Les plantes s'autosuffisent. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une circulation d'air. C'est certain qu'après quelques temps, un an et demi, 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, si une plante restait scellée sous plastique tant de temps, peut-être qu'il manquerait de dioxyde de carbone pour sa croissance. Mais pour survivre, ça peut vivre des années scellée dans un sac de plastique transparent. Pas de problème. La seule chose qui est importante, c'est que les plantes soient humides, mais pas plus. Au moment où on a place. C'est pour ça que souvent, je veux dire aux gens, avant de sceller une plante, pour quelque raison que ce soit des semis ou des boutures qu'on fait, ou une plante qu'on veut protéger parce qu'on va partir en voyage, des situations semblables, arroser la veille si possible pour que s'il y a un certain surplus d'eau, ça puisse légèrement s'évaporer. Ainsi, le terreau va être humide, mais pas trop humide. Et de cette façon-là, on devrait être capable d'avoir une belle croissance. Depuis longtemps que j'ai laissé exprès une plante scellée dans un sac, c'était 8 mois. La plante était en parfait état. Au bout de 8 mois, je l'ai enlevée parce qu'elle est en fleurs. C'est un peu plate, fleurée dans un sac. Fait que je l'ai enlevée. Des gens qui ont cultivé des plantes en baie, des contenants scellés pendant 30 ans et plus. Donc, c'est pas un problème du tout d'avoir une plante dans un sac de plastique. Donc, voilà pour la réponse à cette question-là. Alors, Michel, est-ce que tu peux maintenant parler? Ton micro est fermé. Ah, il n'y a pas l'air de pouvoir parler. Je ne sais pas si je vois le chat quelque part. Le chat avec rien dedans. Donc, je n'ai aucune idée si les gens peuvent me rejoindre ou pas. Et Michel. Oui.
Larry, oui? Est-ce que tu m'entends?
Là, je t'entends, oui.
Super, on avance. Désolé à les gens qui nous regardent. Il y a 72 personnes qui nous regardent actuellement sur Facebook Live. Merci beaucoup à Marlène qui nous donne un fier coup de main ce matin parce que la plateforme que j'utilise actuellement, normalement, qui est BeLive, a décidé qu'elle ne fonctionnait pas ce matin. Donc, oui, il y a la possibilité de poser des questions sur le Facebook Live, comme les gens le font à l'habitude. J'essaierai d'en répondre le plus possible, mais si tu peux regarder, encore une fois, actuellement, dans tes questions...
Oui, j'ai une autre question. J'ai une autre question.
Parfait.
Okay. Question ici, c'est de Lisa. Elle dit, jamais savoir s'il peut être dommageable de faire pousser les légumes près d'une piscine. Est-ce que l'eau chlorée peut nuire à la croissance? Est-ce que les légumes peuvent être consommés sans danger? Bon, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Il faut penser d'abord que même si l'être humain aime pour l'eau de chlore, les plantes tolèrent très bien le chlore en général. Même les plantes ont besoin de chlore. C'est nécessaire pour la croissance. On ne le sait pas, mais le chlore est présent presque partout dans la nature. Hein? Et les plantes ont besoin, sans chlore, les plantes ne peuvent pas vivre. Donc, avoir un peu de chlore, ce n'est pas la fin du monde. Aussi, il faut penser que les plantes vont absorber ce qu'elles elles ont besoin. Donc, si jamais il y avait trop de chlore dans le sol, au moins qu'il y ait une telle quantité de chlore que ça devienne carrément toxique, la plante n'absorberait pas de ce plus. La plante va aller chercher la quantité qu'il lui faut. Donc, il n'y aurait pas de problème. Les plantes en absorbent trop. Il peut y avoir du chlore qui s'y sèche, qui reste sur le feuillage. C'est évidemment, on sait que ce n'est pas toxique pour l'être humain, Mais on pourrait toujours rincer les légumes avant de servir. Et a priori, il n'y a pas de problème avec les légumes près d'une piscine. Et c'est, idéalement, vous ne passerez pas votre temps à lancer l'eau dessus. Et il faut quand même qu'un excellent drainage, parce que si l'eau arrive très souvent, ça va plus le problème trop d'eau que d'autre chose. Mais s'il y a un bon drainage, pas vraiment de problème. L'effet du chlore, là, c'est une... On a dit beaucoup sur Facebook, les pas semblables, parce que c'est facile de pointer du doigt. C'est le chlore qui est la cause, c'est ça. Le chlore est vraiment la cause, c'est grand-chose. Vraiment pas, presque jamais un problème du chlore. C'est pas mal exagéré la croyance que ce soit le cas. Donc, voilà pour cette question-là.
J'en ai une, Larry, si tu me permets.
Oui.
Don Trang, fan, écrit « Bonjour, ravi de vous entendre. Est-ce qu'un abri en bloc de neige, genre demi-igloo, collé sur un mur de la maison, pourrait permettre de maintenir au-dessus de 0 degré, ainsi entreposer des bulbes de... merde, ça a bougé. Donne-moi un instant. Ainsi entreposer donc des bulbes de tulipes à forcer pour janvier. Merci beaucoup.
OK. Ce serait risqué pour les bulbes, en tout cas, parce que les bulbes, même ça, des fois, mais pas gelées sous le sol. Il faut que les racines se fassent, etc., etc. Mais la neige va isoler, mais ça n'isolerait pas dans le sens de prévenir le gel. Ça va réduire... Ça va réduire le degré de gel, mais il y aura du gel quand même. Peut-être un gel beaucoup plus léger, ça dépend évidemment de l'édifice, ça dépend de où vous êtes, ça dépend de la température extérieure, mais ça peut quand même devenir trop froid pour certaines bulles en pot. Par contre, il y a beaucoup de plantes qui sont limites, qu'on pourrait facilement cultiver comme ça, sont déjà quasiment thermiques, et vous pourrez essayer ça. Moi, si je rentre autre, le romarin, pour voir si le romarin ne pourrait pas passer l'hiver, évidemment. Mettez pas votre seul plant de romarin. Si vous en avez un, essayez. Ça se peut. Le romarin est quasiment rustique. Il tourne très bien le gel. Pas trop de gel, mais quand même le gel. Fait que ce sera un exemple d'une plante qu'on pourrait essayer dans un abri semblable.
Je peux y aller avec une autre question.
Oui.
Aiden Knight écrit: j'ai une serre vitrée fermée avec lumière de croissance 14 heures par jour, 80 % d'humidité et ventilateur 24 heures. Je croyais que les conditions pour les plantes étant les mêmes à l'année, les plantes... Attends, ça a bougé encore une fois. Ce ne sera pas très long, je vais essayer de retrouver la question. Mais en tout cas, je vais essayer de la retrouver, mais il y en a une autre. Marie-Josée Landry, y a-t-il des plantes répulsives pour les petits rongeurs à semer près d'un poulailler, pardon?
OK. Il se dit beaucoup de choses sur les plantes répulsives. Si vous cherchez sur l'Internet, telle plante, telle autre plante, blablabla. Mais quand vous cherchez des preuves, le moindre preuve que ça fonctionne, vous ne trouvez absolument rien. Ça ne semble pas être vrai. Moi, ça me surprendrait beaucoup. Peut-être qu'une certaine odeur peut diriger l'animal légèrement à côté, mais s'il y a quelque chose à manger de l'autre côté, ça va marcher. Je me souviens très bien des expériences que je ne peux pas calculer comme étant des preuves. Mais il y a, près de 20, 25 ans, il y avait un soi-disant nouveau pelargonium qui est sorti, qui était, comment ça s'appelait, supposément qui repoussait, en tout cas, les chats et les chiens. Ils appelaient ça « piss off plant ». Bon, fait que j'essaie ça avec mon chat, avec mon chien. Aucun effet. Le chien, c'est facile. Hein. Il fallait pour le croire avec un chien. Je le place et là, le flatter, puis il s'endormait. C'est vraiment rien là. Et mon chat, pas aussi facile à dire parce qu'elle n'était pas mal indépendante. Elle semble pour moi le moindrement dérangé pareil. Et je ne dis pas que ça pourrait déranger d'autres choses, mais toutes les plantes répulsives en général, vous remarquerez quand j'écris, j'en parle pas parce que je n'ai pas de preuve d'un sens ou de l'autre. Mais j'aime pas, j'aime autant pas encourager les gens à penser quelque chose qui peut être vrai quand il n'y a aucune preuve là-dessus. Et j'aimerais bien que quelqu'un fasse une étude. Ça me semble serait intéressant comme étude pour un étudiant en haute culture. Mais il ne semble pas en avoir des véritables. Et je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup, quand vous commencez à parler avec des gens qui s'y connaissent en haute culture, il n'y en a pas qui recommandent des plantes répulsives. C'est bien. On aimerait bien que ce soit vrai. Mais moi, je pense bien que ce ne serait pas le cas.
Je rappelle aux gens, malheureusement, on a des petits problèmes techniques. Merci beaucoup à Marlène de nous aider avec ça ce matin. Mais je dois prendre les questions d'une manière différente de d'habitude. Donc, ça se peut que ça, je passe par-dessus votre question. C'est, malheureusement, j'essaie de que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Donc, toutes mes excuses pour les gens qui écoutent l'émission et qui regardent l'émission. Allons-y maintenant avec la question de Marielle Larenarde. Lorsque mes semis d'hibiscus auront des feuilles, dois-je les répliquer dans un pot juste un peu plus grand et les répliquer plus tard dans un autre pot encore plus grand à mesure que les plants grandissent?
Oui. Alors moi, je veux dire, Mme Larenarde, oui, je vais faire exactement ça. Si c'est dans un petit cordon comme un alvéole, dès qu'on a quelques feuilles et qu'on voit que les racines remplissent le terreau, absolument, mettez dans son pot, peut-être, là, je ne sais pas d'où vous partez, mais peut-être deux fois plus grand pour les petits, et plus tard encore une deuxième fois. Parce qu'on veut encore les plantes pousser. Par contre, si on met un tout petit semis dans un gros pot, le problème devient que le terreau a tendance à rester trop humide. Pas dans le secteur des racines au départ, parce que les racines vont assécher, mais autour. Et ça, on ne veut pas. Ce qui fait qu'on veut toujours une pot dans laquelle les racines peuvent se rendre assez rapidement. Donc, probablement deux transplantations, effectivement, avant que ce soit au jardin. Parce que l'hibiscus vivace, c'est une plante quand c'est au mois de février, donc très, très tôt.
On va y aller. Aiden Knight, j'avais commencé sa question, je ne la retrouve plus, mais lui, il a une deuxième question en disant... Si vous en manquez, sinon je les poserai de nouveau la semaine prochaine. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il veut revenir avec ses questions, mais je vais tout de même continuer à lire ce qu'il a écrit. Que pensez-vous de la nouvelle tendance où les gens utilisent du pays de cèdre ordinaire, teint ou non, vendu en centre jardin comme unique substrat pour un système semi-hydroponique? Ils y ajoutent des engrais, bien sûr.
Oh, ça peut marcher. Ça dépend de ce que vous cultivez. Je ne mettrai sûrement pas des plantes à racines, à légumes racines là-dedans, parce que les légumes racines, habituellement, dès que ça approche l'hydroponie, ça ne fonctionne pas. Ça peut marcher pour d'autres choses. Il n'y a pas très longtemps, on croyait toujours que le paillis de tuya, qu'on appelle taillis de sel, était toxique. On sait que ce n'est pas toxique. C'est pas riche, mais là, avec les systèmes d'hydroponie, on met l'engrais. Donc, ça peut se faire. Moi, j'ai tenté des expériences. Je ne vis pas très à jour là-dedans. Parce que j'ai tenté mes expériences en hydroculture il y a presque 40 ans. Et cette époque-là, c'est pas que ça marchait pas, mais tout était cher. C'est pas un engrais spécifique, puisque c'est pas n'importe quel engrais qui convient. Il fallait tester l'eau constamment. Ça coûtait une fortune. Le substrat n'était pas bon marché. Donc, je me suis dit, oh ben, ça fonctionne. D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas vu de différence dans le résultat. Donc, après avoir fait peut-être 2-3 ans là-dedans, j'ai abandonné l'hydroculture. Je suis retourné au terreau et à la terre, au jardin. J'avais d'aussi bons résultats sans les coûts surtout. C'était très, très, très cher dès qu'on embarque dans l'hydroponie. Je ne sais pas si c'est de l'exagération, mais c'était un peu décourageant. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est moins pas le cas. Peut-être que les engrais, qu'il faut quand même un engrais très, très bien, très spécifique. Parce qu'il n'y a rien pour contrôler le pH. Vous comprenez, le pH, c'est important. Et un engrais ordinaire n'est pas fait pour un pH stable. Donc, vous aurez besoin vraiment d'un engrais très spécifique, la bonne dose, la bonne quantité, le bon moment. c'est une, quand même tranchée pour les gens qui aiment une façon un peu plus scientifique de jouer à des étiquettes. Pour les dire ça comme ça.
Est-ce que tu as une question par courriel actuellement?
Oui, je n'ai pas de problème.
Sur Facebook.
Oui. OK. Ici, c'est une question de Nancy. Il dit, j'ai des aloès qui font plein de bébés. C'est mon plus grand plaisir. Mais je n'arrive pas à les faire grossir. Elles peuvent attendre 7 pouces ou même 10 pouces de longueur et restent avec des tiges de grossir très modeste. Que puis-je faire pour qu'elles grossissent? Merci. Écoutez, deux possibilités. D'abord, les aloès, il y en a beaucoup d'aloès. Toutes sortes d'aloès. Je ne sais pas comme les espèces. Il y en a qui sont des grosses plantes, d'autres sont des petites plantes. D'autres qui poussent plus ou moins seules, d'autres qui poussent en quantité, font des tapis. Donc, peut-être que vous avez une aloès qui est naturellement tendance à être tapissant. Donc, sa façon de pousser, c'est de prendre une première rosette, plein d'autres autour, mais ça ne grossit pas trop. Et c'est sa façon de pousser. D'autres sont portés à faire une plante mère avec quelques bébés, mais la plante mère grossit. Ça dépend de quelle espèce. Donc, peut-être que c'est normal, d'un côté. Deuxièmement, si c'est une variété qui est pauvre, qui devrait faire une plante mère plus grosse, et que vous avez plein de bébés qui partagent le même espace, le même terreau, la même source d'eau, ça fait beaucoup de monde à la messe. Donc, vous avez de la compétition. Chacun vole les minéraux à l'autre. Et ça fait des plantes qui n'ont pas beaucoup d'aide. Ils n'ont pas autant d'eau que les autres, pas autant de minéraux que les autres. Et donc, ces plantes-là vont rester plus petites. Souvent, ce qui arrive, ça finit, il finit par en avoir un qui va dominer les autres. Mais au début, ou pendant longtemps d'ailleurs, vous avez cette compétition qui garde la croissance limitée. Pas encore semblable. Le plus logique, c'est d'enlever les bébés. Laisser un plant dans le pot. Chaque fois qu'il en pousse un autre, laisser la plante mère devenir une plante mère. Et comme ça, vous pouvez avoir un beau gros aloès. Si c'est une espèce qui fait ça, le vrai aloès, l'aloe vera, celui qu'on utilise pour des comme plantes médicinales, peut faire facilement ça. C'est sa nature. Elle fait normalement une grosse plante mère qui finit par le ventre, même fleurir, et des bébés autour. Mais pour ça, il faut peut-être au moins réduire la compétition pour donner une chance à un des petits à devenir grand. Et voilà. Mais puis, Michel, est-ce qu'on a du retour?
Oui, en fait, j'ai une autre question qui vient de Ai Nguyen. Quelle est la hauteur maximale des tuyas de Grotz-Spire. Je ne veux pas avoir à tailler pour qu'il ne rentre pas dans les fils de câbles Internet. Deux sites web me donnent des hauteurs différentes. 2,5 mètres et 4 mètres.
Oh, c'est beaucoup plus 4 mètres, même plus. Ce qu'il faut penser, que beaucoup de sites web, pas de sites web ou de pépinières, veulent vendre. Ils vont mettre ce qu'ils pensent que les gens veulent entendre. Pour des mesures, pour une plante qui devient trop grande, ils vont souvent dire, oh, je ne dirais pas la plante que ça peut, la personne, que la plante peut atteindre 15 mètres de haut, ils ne vont jamais l'acheter. Je vais leur dire que ça atteint 2 mètres. C'est bien logique, hein? 2 mètres, bien haut. Puis ils peuvent toujours tailler. C'est comme dans l'attitude, ils vont tailler, c'est tout. C'est qu'ils ne donnent pas les bonnes mesures. Et je le vois partout. Je trouve ça terrible pour les conifères. D'ailleurs, j'allais écrire un livre sur les conifères. Je ne me suis jamais rendu. Mais je vous jure, il y a des marchands qui ne voulaient pas que je publie. Vraiment pas que je publie ça. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. Souvent, ce qu'on voit chez les marchands qui sont relativement corrects dans leur information, ils vont vous donner les mesures après 10 ans. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas les mesures de la plante. C'est une mesure après 10 ans. Donc, si vous présumez qu'après 10 ans, ça va atteindre telle hauteur, je ne me souviens pas des chiffres que vous avez sortis, il faut penser que dans 20 ans, ça va être 2 fois plus gros, et dans 30 ans, 3 fois plus gros, etc. Et il n'y a pas de tuya qui reste petit, ça n'existe pas. Si vous voulez une tuya qui reste petit plus longtemps, c'est des vérités qui sont plutôt en forme de forme globulaire. Là, il n'y a pas de flèche dominante. Et la plante va plutôt, ça va être plus large, là, mais au moins ça va grossir en hauteur moins vite. Mais on ne peut pas utiliser les tuyas comme arbustes sans les tailler. Le tuyas est un arbre. Il faut toujours penser que si on ne le taille pas, ça va prendre sa forme normale. C'est Ed qu'on voit. C'est faux, hein? C'est pas naturel. Si on arrête de tailler un tuyas, ça devient un arbre, tout simplement. Donc, il faut prévoir ça. Et voilà.
Marielle Larenard, encore une fois, elle écrit « Dès qu'un semis a levé sous lumière artificielle, il faut lui enlever le tapis chauffant. Mais si la pièce n'est qu'à 16 degrés et que c'est une plante tropicale, puis-je laisser le tapis chauffant pour qu'elle reçoive une bonne chaleur ou s'il est préférable d'augmenter immédiatement la chaleur de la pièce? »
Non, non, c'est pas un problème. Pour les plantes tropicales, c'est sûr que quand on donne des renseignements, c'est en généralité. Donc, en temps normal, si on parle de votre semis d'annuel ou semis de légumes habituels, 16 degrés, c'est pas un problème pour la croissance. Fait que, pas de problème. Après la germination, qui prend de la chaleur, après la germination, on peut enlever la source de chaleur parce que là, c'est le tapis chauffant et la plante va très bien. Même les plantes qui étaient un peu au frais, de meilleurs contacts et donne de meilleurs résultats dans le jardin un petit peu. C'est quand même l'idéal, presque. Mais si vous avez quelque chose de très tropical, quelque chose qui vient vraiment du sud, je ne sais pas de qu'est-ce que vous avez en tête, mais même les tomates, d'ailleurs, 16 degrés, c'est correct. Jusqu'à 12 degrés pour les tomates, ça peut aller très bien. Mais si vous avez quelque chose de très, très tropical, là, par exemple, non, ça serait trop froid, vous serez mieux de garder ça à la chaleur, avec votre tapis.
Autre question de Manon Gamelin, cette fois-ci. J'ai un bougainvillier que j'ai rentré à l'intérieur à l'automne. Il a de très longues branches et il est en fleurs. Pour une floraison à l'été, devrais-je le tailler lorsqu'il aura fini de fleurir et comment?
Oui, il faudrait. Parce que ce qui va arriver, il n'y aurait pas tendance à fleurir puisqu'il est déjà fait. Donc, idéalement, vous l'aurez soit taillé en entrant et l'aurez gardé au sec pour que ça pousse, ou si vous le laissez pousser, vous aurez coupé si vous avez vu des tiges florales. Ce n'est pas habituel, hein? Ça fleurit à cette saison-ci. Donc, vous avez une mauvaise chance, en fait. Ça arrive pas souvent, des choses semblables. Mais tout est possible. Fait que moi, je couperai tout de suite cette plante, hein? Soulève une floraison de l'été, coupez tout de suite. Ce qui pourrait stimuler la plante à faire de nouvelles branches et fleurir l'été. Comment couper? Taille comme vous voulez. Cette plante-là, puisque c'est dans la nature, c'est une plante grimpante qui peut atteindre, je ne sais pas quelle hauteur, 7-8 mètres ou moins de haut, presque autant de large. On ne peut pas avoir ça dans la maison. Et on ne peut pas le sortir et le rentrer. Donc, veux pas, il est nécessaire de tailler cette plante-là. Vous n'avez pas le choix. Donc, ça serait quelque chose, le remettre, le garder beaucoup plus court que la plante ne l'est actuellement. Ce serait une bonne façon de faire. Donc, à couper à peut-être 20-25 cm de haut et la plante va repartir de là.
Vas-y avec une question courriel. Pour l'instant, il n'y a rien sur Facebook Live.
Oui. OK. Question de Christine. J'ai une question concernant les taches brunes sur mes tomates. Chaque année, avant que je puisse récolter mes tomates bio, les taches brunes, quand le moisissure envahissent mes fruits. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est plusieurs choses. Alternarios, entre autres. Mais, depuis 7-8 ans maintenant, c'est surtout une seule maladie. Ce qu'on appelle le mildiou de la tomate, ou on peut l'appeler aussi le mildiou de la pomme de terre, puisque ça affecte les deux plantes et c'est la même maladie. Différentes souches, par contre, des fois des souches différentes. Et c'est ça qui cause ça. D'ailleurs, vous aurez remarqué également les taches brunes sur les feuilles aussi, juste avant que les fruits soient attaqués. Donc, c'est une maladie qui hiverne sur les pommes de terre. C'est les pommes de terre qui sont la cause. Et donc, normalement, il ne faut pas conserver les pommes de terre, les tubercules des pommes de terre d'une année à l'autre. pour essayer d'éviter cette maladie de décès. Ça, c'est une information qui est relativement récente. On ne le savait pas avant. On se demande d'où ça venait à tous les ans, puisqu'en fait, c'est une maladie qui ne survit pas en pleine terre. Ça ne passe pas l'hiver. Et ça survit sur les pommes de terre, les tubercules. Donc, normalement, des tubercules de pommes de terre, vous les mangez au printemps, vous finissez de les manger, vous n'en replantez pas. On peut trouver des tubercules de pommes de terre qui sont vérifiés, libres de cette maladie-là. Et vous pouvez les planter, c'est disponible partout, dans les jardineries, sur Internet, etc. Il ne faut pas replanter des pommes de terre de l'une à l'autre. Sinon, on cause des problèmes, non seulement à soi-même, mais aux gens dans les environs. D'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est même illégal. Hein? Personne n'applique la loi. Mais des producteurs de pommes de terre, imaginez-vous, il y en a plein au Québec. Puis eux, ils ont des gros problèmes avec ça. Et c'est causé par les jardiniers à côté qui conservent la pomme de terre de semences d'une année à l'autre. Donc, c'est pas une chose qu'il faut bien dire. Bon, donc, ça, c'est la première chose. Pas cultiver des pommes de terre à répétition. Aussi, par contre, ça, c'est une excellente nouvelle, c'est qu'il existe maintenant des dizaines, même une centaine de variétés de tomates qui sont résistantes au milieu. Donc, on peut choisir parmi ces plantes-là et ne pas avoir à se soucier trop de la maladie. Évidemment, ce n'est pas au point de contaminer des voisins à côté avec nos pommes de terre qui transportent la maladie, mais quand même, pour soi-même, c'est facile. Et ça existe sur mon site web, c'est www.jardinierparacel.com. Cherchez pommes de terre résistantes et ça va sortir tout de suite. C'est une liste que je mets à jour régulièrement parce que ben, vous comprenez, maintenant que la maladie est devenue très courante, tout d'un coup, il y a de l'intérêt à sortir des variétés résistantes. On en trouve parmi la tomate, la patrimoniale, un peu. Pas beaucoup. En général, les tomates patrimoniales sont sujettes aux maladies plus que les autres. Mais on en trouve quelques-unes. Mais on trouve beaucoup de variétés maintenant modernes et qui sont résistantes. Donc, c'est une façon de s'en sortir sans trop de problèmes. Et voilà, ça, c'est la réponse à cette question-là.
Je vais y aller avec une question de Stella Pelletier. J'ai semé des petits lotus. L'année dernière, une très belle floraison au jardin tardivement, mais de préférence en pot. D'où provient cette plante?
Le Philotis, c'est une plante qui vient de l'Australie, croyez-le ou pas. Ce n'est pas très connu au Canada ou même aux États-Unis. Personnellement, je n'ai jamais vu dans la nature. J'étais en Australie deux fois, mais je ne peux pas dire que j'ai vu cette plante-là. Elle est très jolie. Et le cultivar que je connais, c'est Joey, je pense, de la fleur rose. Très, très jolie. Il ne se ressemble à rien qu'on connaît. Vous comprenez? C'est une famille australienne, dans le fond. Puis l'Australie a plein de plantes. Pas du tout comme ce qu'on voit ici. Quand vous allez en Australie, vous allez voir là, ce qu'on voit, beaucoup de plantes européennes qui sont cultivées, parce que les Australiens, sauf les peuples indigènes, ont apporté plein de plantes de chez eux. Mais dans la nature, c'est que des choses qu'on n'a jamais vues. C'est que la pilotis, c'est une plante qui vient de l'Australie.
Céline Blais. L'année dernière, j'ai parti un delphinium bleu et il a produit tout l'été. Est-ce qu'il va repousser ce printemps ou dois-je en réserver, en ressemer, pardon, un autre? Merci, M. Larry.
Oh, OK. Elle n'avait pas dit d'où elle venait, non?
Non.
OK. Le delphinium qui fleurit tout l'été, c'est pas le grand delphinium. C'est une variété plus compacte, dont je ne me souviens pas du nom, et qui est bisannuelle. Bon, bisannuelle veut dire normalement ça fleurit la deuxième année et meurt après. Là, vous l'avez semé, ça fleurit la première année, parce que vous l'avez porté dans la maison. Donc, vous avez réussi à faire deux années dans une seule. Mais la plante va probablement mourir. C'est normal pour cette plante-là. Je ne dis pas que des fois, une plante comme ça puisse faire une deuxième année, mais normalement pas. Mais les chances sont encore moindres si vous êtes dans une région où les étés sont chauds. Les delphiniums, c'est pas des plantes de chaleur. Donc, la chance de survivre longtemps. Même les delphiniums ordinaires sont moindres, disons, à Montréal, qui pourraient être à Québec ou à Gaspé, ou au moins le delphinium, le grand delphinium, delphinium latum, au moins cette variété-là, réussit à fleurir des années de temps. Alors qu'à Montréal, c'est une bisannuelle, tout simplement. Donc, moi, je soupçonne que ça ne refleurisse pas et qu'il faudrait que vous en soyez semé d'autres. Et c'est une vraiment belle plante, hein, des fleurs vraiment bleues. Je comprends que pas d'intérêt de ressemer ça. Voilà.
Lucie Desjardins. J'ai un ficus. Ah, merde, je l'ai perdu.
Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'on a une bande différente avec les questions et ça bouge, mon ami. Quand d'autres questions s'ajoutent, ça bouge puis on perd. Voilà. Pardon, Michel, je te laisse.
Donc, je vais y aller avec Sylvie Desrochers. J'ai un hibiscus sur tige. Depuis septembre, il est entré dans ma verrière qui est à 15-16 degrés. Je remarque qu'il veut donc déjà faire des fleurs. Dois-je le recouper? En plus, il y a des petits insectes sur les bourgeons. Que dois-je faire?
Oh, OK. Donc, quand c'est juste qu'il veut fleurir, ça, c'est moins pire. Puis, il faut comprendre quelque chose avec un hibiscus. L'hibiscus est fait pour une floraison continuelle. Évidemment, là, on parle de le sud, où il fait 12 heures de soleil par jour et un soleil intense tout le temps. Mais c'est, dans sa nature, ça fleurit de façon constante. Donc, après qu'une fleur a fané, il y a déjà une autre bourgeon prêt à fleurir, puis une autre plus petite, puis une autre plus petite. Fait que, si on coupe, on élimine la floraison. Donc, ça, c'est la première chose à noter avec un hibiscus. Par contre, si ça devient trop long, on n'a pas le choix. Et donc, c'est quand même une excellente période pour raccourcir les branches qui sont trop longues. Mais si vous ne dites pas que les branches sont trop longues, moi, je laisserai faire. Il va être déjà en train de fleurir dans la maison. Mais quand vous le sortez là, il devrait continuer jusqu'à ce que l'automne arrive. Et là, avec les jours courts, là, la floraison devrait avoir un peu plus raison. Disons, les jours courts, le cours devrait avoir plus raison de sa floraison. Et ça devrait arrêter à ce moment-là. Mais c'est une. Et maintenant, ça, c'était s'il n'y avait pas d'insectes. Quand vous dites que les insectes, oh, ça change tout. Parce que les seuls insectes qu'on trouve sur les fleurs, ce sont des pucerons. C'est des fleurs, c'est des pucerons. Donc, moi, si je suis vous, je couperai toutes les fleurs et je couperai même des branches, l'extrême des branches partout et je le ferai dans un endroit où je peux les lancer tout de suite à la poubelle. On ne veut pas par accident en transmettre le reste de la plante. Après avoir, là, donc, sacrifiez les fleurs, vous n'en voulez pas de pucerons. Et une fois que vous aurez enlevé tout ce qui est de la pointe et toutes les branches dans le bord, disons au moins disons, 3 cm sur chaque plante, coupez tout ça, mettez ça tout de suite dans le compostage. Et par la suite, prenez votre plante, lavez-le comme il faut avec de l'eau et du savon. Et mettez ça quand même en isolation pour voir qu'est-ce qui se passe. Si au bout d'un mois, ça va commencer à pousser, d'ici 2-3 semaines. Si au bout d'un mois, la nouvelle pousse, elle reste, puis pas d'insectes, vous êtes correct. Et dans la plante, avec un peu de chance, va quand même refleurir vers le milieu de l'été. Voilà.
Donc, une autre question d'Aurélie Delorière qui écrit « J'ai un passiflore haut de plus d'un mètre. J'aimerais la rafraîchir. Comment la rabattre? Et est-ce que c'est une plante qui... » Ah, merde, je l'ai encore perdu. Je pensais ne l'avoir pas perdu. Désolé, la personne à qui je lisais la question. Comme Larry expliquait il y a quelques minutes, on a une technique un peu différente aujourd'hui. Je lis les questions directement de Facebook Live. Donc, quand il y a des questions, à un moment donné, tout bouge. Donc, on essaie de faire de notre mieux aujourd'hui dans les circonstances un peu plus compliquées qu'à l'habitude. Donc, on s'en excuse. Et je vais y aller avec la question de Sylvie Brousseau. Je devrais enlever un azalée fin mars à cause des travaux. Comment procéder pour la sauver et la replanter au printemps? Merci.
OK. Soit le rompote le déterrer, l'emporter dans un pot ou dans une toile quelconque, on met à la terre autour. Il faut le mettre à l'ombre, on appelle ça en jachère, le côté là. Mettez-le à l'ombre et gardez ça humide. Et ça ne devrait pas être un problème majeur. Le fait que ce soit si tôt en plus, la plante ne ferait pas en croissance encore, ce qui fait que la plante souffrirait beaucoup moins. Il reste que c'est stressant pour la plante, mais ça devrait fonctionner. On peut déplacer une plante, même un arbuste, et le replacer quand il y a des travaux comme ça.
Manon Fèvre, je pense qu'on l'a regardé tantôt, mais on va, si oui, on va passer à une autre. Donc, Manon Fèvre, bonjour, j'aimerais savoir qu'est-ce que le compost à prédominance bactérienne et fongique.
Oh, ça dépend qu'est-ce que c'est qui décompose le compost. Donc, normalement, le compost fongique, si on veut l'appeler comme ça, parce que ce n'est pas pur, hein, il est toujours mélange. Le compost est très rarement décomposé par un seul type de créature. Mais normalement, c'est un milieu un peu plus aéré, où les champignons prolifèrent davantage. Et donc, ça sent pas le pourri, ça sent plutôt l'eau après la pluie, le fer après la pluie. Donc, c'est le compost typique. Normalement, on aime nos composts comme ça, parce que ça sent pas mauvais, ça fonctionne très bien. Et c'est plus vite aussi. Quand c'est bactérien, là, on est dans un milieu où l'oxygène manque. Il n'y a pas assez d'oxygène et les bactéries sont capables de se vivre dans une situation semblable. Donc, ça devient plus compact, l'odeur est désagréable et c'est beaucoup plus lent. Donc, normalement, on essaie d'éviter cette sorte-là. On vise fongique. Puis là, je généralise. Il y a des champignons qui vont bien sans trop d'oxygène et des bactéries qui tolèrent pas l'oxygène, en tout cas, qui tolèrent l'oxygène. Mais en général, c'est ce qu'on... Normalement, quand on fait du compost, on veut un milieu aéré pour stimuler certains microbes plus que d'autres dans des champignons et aussi d'autres choses. Encore une fois, ce n'est pas juste les champignons. Il y a plein de choses qui vivent dans un compost.
Boy, OK. Désolé. Lucie Desjardins. J'ai un ficus benjamina dont les pédoncules jaunissent et tombent au sol. Que faire?
OK. J'aurais aimé savoir si c'est une chose récente, mais souvent le ficus benjamina, qu'on appelle aussi ficus pleura, est un arbre d'intérieur très intéressant, mais qui a des gros problèmes de changement, même pas de changement. Et normalement, quand on voit ça, c'est que la plante a bougé. On a soit acheté récemment ou été placé dans une autre pièce ou vous l'avez eu en cadeau de quelqu'un d'autre. Et la plante réagit en lançant les anciens feuilles et en refaisant de nouvelles feuilles. On va espérer. Donc, c'est un peu plate parce qu'on commence avec une plante en forme et bientôt, il n'y a presque pas de feuilles. Donc, ce qu'on peut faire, un, acheter toujours, déplacer toujours le ficus l'été, le printemps, l'été, pas l'automne, l'hiver, où le choc est plus grand. Toujours sur une forte humidité. Forte humidité, ça compense pour presque tout. Et la façon la plus facile, c'est quand vous avez à acheter ou déplacer un ficus benjamina, c'est le mettre dans un sac de plastique transparent, carrément dans une serre privée, individuelle, scellée. Et à l'intérieur de ça, donc on arrose, on laisse sécher une journée, puis on scelle, complètement scellé. Là, je fais un geste comme ça parce que souvent, c'est des grosses plantes, hein? C'est très souvent. Vous le scellez à l'intérieur. Et moi, j'utilise souvent des sacs de poubelle transparents. C'est trop gros pour les petits sacs. Vous scellez là-dedans. Vous le mettez dans un endroit pas au plein soleil parce que vous comprenez l'effet de serre. Il faut faire en sorte que ça va sécher, trop chauffer. Et l'avantage, vous mettez dans un endroit où c'est bien éclairé, pas plus. Et vous pouvez commencer à ouvrir le sac peu à peu. Après quelques semaines, surtout au printemps, parce que le printemps s'en vient, la bonne période s'en vient. Ça devrait arrêter aussi après quelques jours de chute de feuilles, parce que sous une forte humidité, tout est permis. C'est incroyable quand sa plante réagit bien à l'humidité. Bon, rendu plus au printemps, disons, supposons que vous faites aujourd'hui, d'ici le 15 avril, la plante repasse ses 2 mois dans le fond, sous plastique, fait commencer à faire des trous dans le plastique pour laisser entrer plus d'air extérieur. Et quand le sac est complètement troué, vous pouvez l'enlever. La plante devrait bien. Là, on peut la mettre plus sur ce dessus. Donc voilà, c'est une question de transition et de maintenir une très forte humidité. À l'intérieur d'un sac de plastique, d'ailleurs, l'humidité est rarement en bas de 80 % et 90 %, c'est très courant. Et la plante adore ça. Juste pour savoir, hein, les gens sont toujours surpris parce qu'on leur donne rarement ça à la maison, mais la plupart des plantes, sauf les succulentes, adorent une forte humidité. Mais vraiment.
Aurélie Delorière, repose sa question parce qu'on avait commencé à la poser. Donc, et il nous reste 1 minute ou à peu près, Larry. Comment rafraîchir une passiflore en pot? Taille de la plante, taille du pot.
OK. De toute façon, vous faites ce que vous voulez avec cette plante-là. Hein? On peut le tailler 20 cm de haut et ça va repousser. C'est une grande plante très vigoureuse. Plus que le pot est gros, plus qu'il va grossir. Moi, je devrais quand même se prendre un gros pot par règle, mais vous pouvez aussi le tailler les extrémités des branches quand ça va trop loin. Donc, tailler raisonnablement maintenant, rempoter absolument. C'est une plante qui est gourmande, qui a besoin d'espace pour ses racines, qui a besoin de minéraux. Et à la fin de la saison prochaine, le tailler elle, en me rentrant. Et encore une fois au printemps, et ça recommencera. À l'extérieur, plein soleil. Pour avoir une belle floraison, plein soleil dehors.
Donc, c'était la dernière question qu'on aura eu le temps d'aborder. L'émission est malheureusement pour l'instant terminée. On va se reparler la semaine prochaine.
OK, parfait. On va être toujours mercredi à 10h. Et on espère avoir réglé nos problèmes d'ici là. Bye. Merci beaucoup, Michel. Et merci beaucoup aussi à l'équipe Sequoia et surtout Marlène Bordelot. Merci.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour. Dit-on.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
Sherpa présente Crash ton COVID.
Jacques Morin.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui!
Cessez de vous taper la tête sur les murs! Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux, là!
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.